VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, une course contre la montre est engagée pour éviter la grève illimitée que menacent de lancer les syndicats. Le gouvernement a entamé à Abuja des discussions difficiles avec les centrales syndicales qui réclament la baisse des prix du carburant. Michel Joseph.
Le gouvernement, le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont débuté hier à Abuja leurs discussions. Les deux centrales syndicales ont appelé à une grève illimitée pour réclamer la baisse du prix de l'essence à la pompe. Les discussions seront difficiles. Le Bureau national des statistiques a annoncé que l'inflation a augmenté en avril et, selon le sous-secrétaire d'État au pétrole, Emmanuel Kachikou, la production de pétrole brut a chuté à environ 1,4 million de barils par jour contre 2 millions il y a quelques années. Pour le sous-secrétaire d'État, la hausse du prix de l'essence est absolument essentielle pour relancer la croissance, améliorer la confiance des investisseurs et même pour la survie du Nigeria. De leur côté, les syndicats ont prévenu que si les négociations échouent, la grève générale débuterait dès demain mercredi. Les administrations aéroports, ports, banques, magasins et marchés devraient être affectés par ce débrayage.
RDC, en référence au massacre à répétition dans l'est du pays, le célèbre chirurgien congolais Denis Mukwege a appelé aujourd'hui à un changement radical dans le pays. En ce jour de commémoration de la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. La région de Beni au nord Kivu, jusqu'aux confins de l'Ituri voisine, fait face à des massacres récurrents que les autorités et la mission de l'ONU en RDC attribuent aux rebelles musulmans ougandais des Force démocratique alliée ADF, présent depuis 1995 dans l'est de la RDC. Crise au Burundi maintenant, l'ONU se dit préoccupée par la situation dans le pays, en particulier la multiplication des arrestations. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Nous sommes profondément inquiets de l'augmentation des violences et des informations sur de nombreux cas de détention ces derniers jours, a déclaré lundi Farhan Haq, porte-parole onusien. Cette situation pourrait être liée à l'approche du premier anniversaire de la tentative de putsch contre le président Pierre Nkurunziza, a souligné M. Haq, ajoutant que l'ONU suit de près la situation et réitère son appel au dialogue entre le gouvernement burundais et l'opposition. De nombreux jeunes gens ont été arrêtés la semaine dernière dans le quartier de Muzaga, dans le sud de Bujumbura, de même que dans la commune de Mugamba, province de Bururi, une conséquence de la multiplication des rafles menées par les forces de sécurité. La candidature, en avril 2015, du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat a été l'élément déclencheur de la crise que vit aujourd'hui le Burundi. La violence a fait plus de 500 morts et contraint plus de 270 000 Burundais à chercher refuge dans les pays voisins.
Au Tchad, le syndicat des magistrats dénonce les agressions dont ses membres sont victimes de façon permanente en plein exercice de leurs fonctions. Les magistrats demandent donc au gouvernement et aux autorités judiciaires de prendre leurs responsabilités. Plus de détails avec notre correspondant Anjamina, André Kodmajingar.
C'est depuis 2015 que les magistrats font l'objet d'agressions à main armée par les éléments des forces de défense et de sécurité. Ces agresseurs ne sont inquiétés ni par la justice ni par leur conseil de discipline.
Nous estimons qu'il est temps qu'on réfléchisse ensemble à tous les niveaux pour régler définitivement cette question d'insécurité des magistrats.
Ali Abdoulaye Ibrahim, président du conseil des magistrats du Tchad. Pour lui, le dernier cas remonte en février 2016 où un magistrat en poste à Bagassola dans la région du lac a été agressé par un agent de sécurité. Le tort de ce magistrat est d'avoir pris la décision de transférer les brigands de la prison de Bagassola à la maison d'arrêt de Bol, chef-lieu de la dite région, compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Insécurité perpétrée par la nébuleuse Boko Haram. Ce magistrat à bord d'une moto a failli être écrasé par son agresseur.
Le juge nous a saisis. Nous avons demandé au parquet de diligenter l'enquête. Le parquet général était obligé d'écrire au chef d'état-major pour mettre à sa disposition le militaire concerné. Rien n'a été fait. C'est pourquoi nous avons exigé à ce qu'on traite ce dossier avec diligence. Et nous avons estimé que le chef de sécurité, c'est le magistrat. Si lui, il est inquiété combien de fois, les principes citoyens. Et donc, nous interpellons et le parquet et surtout au gouvernement parce que la responsabilité est partagée.
Pour Ali Abdoulaye Ibrahim, si cette affaire n'est pas réglée, son organisation passera à une vitesse supérieure pour se faire entendre.
Nous avons adopté une stratégie de dialogue qui a bien marché avec le ministère de tutelle. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut régler par le dialogue. Si les choses piétinent, pour quelque raison qu'il soit, eh bien, nous avons plusieurs moyens légaux qui pourraient nous permettre de nous faire entendre.
Selon les autorités judiciaires, comme l'enquête suit son cours, elles se refusent tout commentaire pour l'instant. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Conflit en Libye, la communauté internationale a levé l'embargo sur les armes à destination de la Libye pour soutenir le nouveau gouvernement libyen d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Alors que ce dernier tente d'asseoir son autorité sur un pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. Eric Manirakiza.
La décision a été prise à l'unanimité à Vienne, en Autriche. Les grandes puissances et les pays voisins de la Libye ont compris l'ultime nécessité de réarmer Tripoli pour juguler la menace djihadiste. Dissensions politiques et vide sécuritaire ont facilité depuis 2014 l'implantation de l'EI en Libye, constituant une menace directe pour ses voisins et l'Europe. Les ministres présents à Vienne se sont dit prêts à répondre aux demandes du gouvernement libyen en vue d'entraîner et d'équiper la garde présidentielle et les forces autorisées. John Kerry et son homologue italien Paolo Gentiloni ont soutenu que la communauté internationale n'avait en revanche pas l'intention d'intervenir militairement en Libye. L'enjeu est aussi d'endiguer le flux migratoire depuis la Libye à 300 km seulement des côtes italiennes. L'embargo de l'ONU sur les ventes d'armes à la Libye a été imposé au début de la révolte contre le régime de Muammar Kadhafi en 2011, mais a été violé à maintes reprises.
Toujours concernant la lutte contre le djihadisme, deuxième semaine dans le procès ici aux États-Unis de trois Américains somaliens accusés de complot en vue de fournir un soutien matériel au groupe État islamique en Syrie. Les précisions de Lionel Gaïma.
Abdullahi Youssouf, âgé de 20 ans, qui coopère avec le procureur, a témoigné contre les trois accusés devant un tribunal de Minneapolis. Sous les questions des avocats de la défense, il semblait parfois troublé. Interrogé sur les incohérences dans son récit, Youssouf a reconnu avoir menti aux agents américains au cours de ses premiers entretiens, mais que plus tard, il a dit la vérité. Youssouf est un ancien ami des accusés qui, dit-il, l'ont introduit à l'islam radical. Youssouf a été arrêté avant qu'il n'embarque dans un vol qui devrait le conduire en Syrie. Il a plaidé coupable d'avoir fourni un soutien matériel, en l'occurrence de sa personne en tant que combattant, à l'État islamique. Mohamed Farah, âgé de 22 ans, Gouled Omar, 21 ans, et Abdirahman Daoud, 22 ans, sont accusés d'avoir organisé des rencontres à plusieurs reprises de mars 2014 à avril 2015 pour discuter du meilleur moyen pour rejoindre le groupe terroriste en Syrie. Mais ils ont été tous appréhendés par la police juste avant de prendre leur vol. Les trois ont plaidé non coupables et risquent de 15 ans à la prison à vie pour complot en vue de commettre des assassinats en dehors des États-Unis.
Toujours concernant le conflit en Syrie, les grandes puissances tentent de relancer ce mardi à Vienne en Autriche les négociations sur la paix en Syrie qui achoppent sur les modalités d'une transition politique et se heurtent sur le terrain à des violations de la trêve et au blocage de l'aide humanitaire. Le groupe international de soutien à la Syrie, piloté par les États-Unis et la Russie, a débuté sa réunion dans la capitale autrichienne. Et puis au Brésil, le parti de la présidente Dilma Rousseff, écarté du pouvoir dans le cadre d'une procédure de destitution controversée, a appelé à la mobilisation contre son successeur Michel Temer, qui a activement œuvré à sa chute. Le nouveau président a entamé lundi des délicates discussions avec les centrales syndicales autour d'une réforme d'un système déficitaire de retraite, prévoyant la fixation d'un âge minimum de départ à la retraite. Pendant ce temps, les manifestations contre le gouvernement se succèdent, mais sans grande ampleur. Et pour terminer, conflit dans la région de Nagorno-Karabakh dans le Caucase. Les présidents arméniens et azerbaïdjanais réunis hier à Vienne par une médiation internationale se sont engagés à respecter le cessez-le-feu récemment agité de violence et à reprendre les négociations au point mort depuis des années. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.